Seigneur vous bénisse, merci Olivier, merci à tous, merci les musiciens. Gloire à Dieu, vous êtes contents ce soir? Alors, on faut dire fort parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir pour faire croire à tout le monde qu'il y a beaucoup de monde. Vous êtes contents ce soir?
Oui.
Oh là là, comme on est nombreux. Bonsoir à vous qui regardez la télé, bonsoir à ceux qui sont sur Internet. Dieu vous bénisse, ce soir c'est une soirée tout à fait particulière puisque nous avons parmi nous Abraham. Pas le... Non, Abraham Gadji. Abraham Gadji. Étant donné que je n'ai pas beaucoup de mémoire, j'ai dû lui demander, mais on se connaît depuis combien de temps? Il m'a dit depuis mars 2002. Ça commence à faire, hein? C'est formidable. Et on ne s'est pas chicané encore. Non, gloire à Dieu, c'est bien d'avoir des amis comme ça. Et c'est quelqu'un de tout à fait particulier puisqu'il est professeur agrégé de droit public à l'université de Cocody Abidjan. Ce n'est pas rien du tout non plus. C'est donc quelqu'un qui se met à mon niveau pour que je puisse le comprendre. Parce que sinon, c'est difficile. S'il commence à me parler dans son baragouin d'avocat international et compagnie, là, je nage un petit peu comme moi si je parle à un pingouin du Pentateuque ou de je sais pas quoi, quoi. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui réussit dans le monde de cette manière-là, qui est un témoignage. Un témoignage. Il va vous dire des choses que le Seigneur a mis sur son cœur ce soir, mais vraiment des belles choses qu'il a. Il m'a dit dans la voiture, waouh, 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 je me réjouis que vous entendiez ça, c'est glorieux. Vous savez, la Bible dit, considérez, homme, frère, qu'il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents selon le monde, hein, c'est vrai, parmi vous, c'est vrai que la plupart du temps, c'est... Mais là, on a quelqu'un pour une fois, enfin non, c'est pas vrai, on a quand même plusieurs de gens intelligents, mais lui, c'est vraiment formidable, ça fait vraiment plaisir de se baigner dans un bon bol d'intellectualisme aussi quand même, pas toujours des choses râlées pâquerettes. On a plein de professeurs parmi nous, mais agrégés, il y a lui aussi, non? Pas encore, c'est la prochaine étape. La prochaine étape, voilà, gloire à Dieu. Eh bien, on est content de te recevoir, mon frère Abraham. Dieu te bénisse au milieu de nous. Et on va filmer tout ça et on te donnera le DVD. Je vais demander à Franck s'il peut faire ça cette nuit pour que demain matin il puisse l'avoir pour montrer à son épouse, hein, et à vos enfants. Dieu vous bénisse aussi. Je me rappelle la dernière fois que j'ai mangé chez vous, c'était formidable. Merci, je vais revenir bientôt. C'était très bon. Abraham Gadji, Dieu te bénisse. On a fait beaucoup de trucs, de choses extraordinaires ensemble à Abidjan, des réunions fantastiques au Grand Hôtel Ivoire. On a rempli le stade de la piscine, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est immense. On a eu des miracles merveilleux, des délivrances fantastiques. On a vraiment vécu des belles choses ensemble. Je me rappelle toujours un jour, t'avais préparé tout pour que j'arrive. Et tout à coup, on était assis, tout le public était là, et tu me dis, et je te dis, j'ai oublié ma Bible dans ta voiture. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Non.
Et tu me dis, il me dit, on va vite y aller la chercher. Donc, je me rappelais plus où elle était la voiture. Donc, on courait dans le parking, il me dit, j'espère qu'il va y avoir des miracles, hein, parce que j'ai tout misé là-dessus, moi. Et c'était, on était jeunes, fougueux, on est toujours jeunes hein, quand même, et toujours fougueux pour le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de miracles, il y a toujours beaucoup de miracles avec Jésus, bien sûr. Et vous voyez, c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui dépasse la moyenne des ours, point de vue intellectuel, qu'on ne croit pas aux miracles.
J'y crois aux miracles.
Amen, Dieu Amen. Te bénisse.
Merci infiniment, merci Michel. Merci infiniment, que Dieu soit béni. On a déjà prié, et je suis reconnaissant au Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde d'être avec vous. La dernière fois que j'ai pris la parole, c'était en 2007, je crois. Parce que je suis arrivé deux ou trois fois, je sais plus si c'est plus récent. Ah non, c'est quand même plus récent quand même. Mais j'étais avec vous l'année dernière. Non, je suis passé, j'étais juste de passage. Et je pense qu'il y a peut-être deux ou trois ans que je suis intervenu ici une fois. Mais je rends grâce à Dieu pour ce privilège que j'ai d'être avec vous et de pouvoir communier ensemble avec vous. Je me souviens encore dans le mois de janvier 2007, à Limoges, où Michel est venu avec sa femme pour me soutenir pour ma thèse de doctorat. C'était en 2007, ça fait maintenant 6 ans. Et j'étais recruté à l'université de Cocody en 2007. Et j'ai commencé à enseigner en 2008. Et en 2011, donc 3 ans après, je suis passé professeur agrégé de droit public. Et le témoignage que je vais rendre, c'est que Dieu, j'en parlerai tout à l'heure, Dieu donne l'intelligence. et nous avons la connaissance. Quand j'ai fait le concours d'agrégation, j'ai été le major dans toute l'Afrique francophone, le premier. Et bien sûr, il y avait un membre du, enfin, c'était 7 membres du jury, 4 Français. Donc c'est aussi un concours français parce qu'il y avait plus de Français que d'Africains. Donc ça veut dire que c'est un concours international qui est très crédible, puisque bon, ça s'est fait sous à l'aune de des profs étrangers. Et j'ai été le major de ce concours-là en 2011. J'en parle simplement pour dire que Dieu bénit, Dieu donne l'intelligence. On a tendance à croire que les chrétiens, principalement évangéliques ou tout ce qu'on veut, tous qui ne sont pas des églises officielles, sont des personnes qui doivent tirer le diable par la queue et qui ne sont bons à la réunion. Non, 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 je suis en train de dire, montrer simplement que, effectivement, Dieu nous fait la grâce de pouvoir vivre ce que nous prêchons et il est important de pouvoir le savoir. Là, je suis arrivé ici, en France, enfin, je viens d'Allemagne parce que j'étais invité par l'université de Gießen, qui est une université proche de Francfort, pour un colloque international. Donc, j'ai fini le colloque. Et j'ai dit, mais je viens à Paris, il faut quand même. Et je ne peux pas passer à Paris sans passer un coup de fil à Michel Janton. Et donc, passer là, il m'a dit, bon, ok, fais un tour au château. Et voilà, donc j'ai dit, ok, tiens, je viens, c'est juste pour 24 heures. Donc, mais voilà, parmi vous, cet après-midi, enfin ce soir, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nos vies. Amen. Je vais aborder, j'ai combien de temps? Non, 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 je non, combien de temps? 30 minutes? Bon, ok. Donc, s'il vous plaît, quand il sera 40 minutes, faites-moi signe, comme ça je peux arrêter. Vraiment, je vais être très, très. Je viens d'Allemagne, donc les Allemands, ils sont. Alors, je vais ce soir aborder un sujet que j'estime important. C'est l'action transformatrice du Saint-Esprit. Je ne verrai pas la personne du Saint-Esprit, mais je verrai comment le Saint-Esprit nous transforme, comment il se sert des hommes ordinaires pour en faire des hommes extraordinaires. Et je vous parlerai d'une expérience exceptionnelle d'un homme qu'on appelle Moïse, que vous connaissez certainement. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles dans Exode. Dans Exode, chapitre 3. On ne lira pas tout le chapitre, mais on va lire un extrait du chapitre 3. J'y suis maintenant. Le verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Verset 11. Moïse dit à Pharaon, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Amen. Pour vous asseoir, s'il vous plaît. C'est une question importante que j'aborde maintenant. C'est que le grand Dieu a recherché un homme qui serait à mesure de libérer Israël de la main du Pharaon. Bon, ça, c'est tout, on la connaît. Mais je vais juste mettre l'accent sur quelques éléments. Je parlerai de Moïse, de sa psychologie. Cet homme qu'on considère comme l'un des plus grands leaders de l'Ancien Testament, peut-être le plus grand leader de l'Ancien Testament, je vous dirais quelle était la psychologie de Moïse. Et comment Moïse a lutté, et comment est-ce que Dieu, par sa grâce, l'a transformé et a fait de lui l'homme que nous connaissons maintenant. Alors, quand on pose, quand on regarde même le verset 10, Dieu dit, maintenant, je t'enverrai vers t'enverrai auprès des pharaons. Et au verset 11, on dit ceci, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Who I am? Qui suis-je? C'est une question d'identité. Et pas identitaire, mais c'est une question de positionnement. Moi, Moïse, qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Qui est Pharaon pour Moïse? C'est le Manitou, le don puissant, cet homme qui se considère comme Dieu, qui avait le droit de vie et de mort. Et Moïse se voit comme un homme faible, impuissant. Et il se demande s'il peut être à mesure de répondre à l'appel de Dieu. Je crois que ce soir, on est un peu comme des Moïse. Qui sommes-nous pour répondre à l'appel de Dieu? Qui sommes-nous pour apporter le salut, le réconfort, la libération, la délivrance? Il y a tant de gens qui souffrent. Et Dieu s'intéresse à nous. Et Moïse dit à Dieu, qui suis-je? En fait, quand on libère la parole de Dieu, on se rend compte que Moïse, en fait, était, au niveau humain, était disqualifié. D'abord, Moïse, premièrement, a connu ce qu'on appelle une déchéance. Moïse était un prince en Égypte. On le sait. Chapitre 2 nous le dit, d'Exode nous le dit, et quand on relit le discours d'Étienne, il nous en parle. Il écrit que Moïse était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse, ayant tenté de sauver Israël, enfin, d'apporter le salut à Israël en tuant un Égyptien, s'est enfui. Donc, il a été disqualifié. Moïse était dans la déchéance par rapport, n'est-ce pas, à ce à quoi il aurait pu s'attendre. Il s'est retrouvé dans le désert. sans domicile fixe. Donc, à un moment donné, Moïse devenait un sans domicile fixe. Troisième faiblesse de Moïse qui le disqualifiait. Il n'avait plus de terre à lui. Il a reçu une terre de son futur beau-père. Il a reçu une femme. Il a reçu des biens. Il a tout reçu. Donc, Moïse, à l'instant T, était un homme qui était au niveau humain totalement disqualifié. Vous voyez, on voit un peu une personne établie, n'est-ce pas, sa puissance, prince d'Égypte, appelé certainement et probablement à succéder à Pharaon, qui connaît une chute et qui se retrouve sans domicile, sans ressources et qui reçoit quasiment tout. C'est vers cet homme que Dieu va. La question, quelles sont les personnes qui intéressent Dieu? Assurément, des gens comme Moïse qui ont réussi, des gens brillants peut-être. Mais Dieu s'intéresse aussi à ceux qui sont dans la déchéance. À ceux qui ne sont plus à leur piédestal. À ceux qui sont disqualifiés. À ceux qui ont tout reçu gratuitement et qui se demandent, mais s'ils ont quelque chose à faire valoir. Vous qui suivez ce message, sachez une chose. Si vous êtes dans l'état de Moïse, ayant perdu les repères et se demandant ce qu'il peut faire, ce soir, ce message est pour toi. Quand Moïse pose la question, qui suis-je? C'est parce qu'il sait qu'il n'est plus rien. Et c'est justement parce qu'il n'est plus rien que Dieu vient vers lui. En fait, en clair, quand je lis la Bible, je me rends compte que ceux vers qui Dieu va sont les personnes qui, à un moment donné, sont conscientes qu'elles ne sont plus rien. Tant qu'on peut agir par nous-mêmes, par nos capacités, on n'est pas qualifié. Et avec Moïse, sans toutefois m'écarter de mon message, je pense aussi à un homme comme Gédéon, à qui Dieu a dit, va, tu sauveras mon peuple de la main de Madian. Et Gédéon dit, mais moi, Dieu, j'espère que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Je suis le plus petit de la tribu, et la plus petite et la plus misérable. Je ne suis pas qualifié. Dieu le dit, je suis avec toi, vaillant héros. On voit que donc, chaque fois que Dieu s'adresse à un homme, c'est quand il atteint ses limites. Pourquoi est-ce que Dieu agit ainsi? Mais parce que le royaume spirituel dans lequel Dieu se glorifie n'est pas un royaume qui est fait forcément de la connaissance intellectuelle. Vous voyez, je suis un tout petit peu en train de me dégonfler là, complètement. Je suis pas en train de penser au professeur agrégé qui a parlé de dépassement, de suicide. Non, franchement, je suis en train de dire simplement que à un moment donné de notre histoire, lorsque Dieu nous rencontre et qu'il veut nous utiliser, il se sert non pas forcément de nos capacités intellectuelles qui sont tout à fait formidables, mais à un moment donné, il se sert de sa présence. Il vient vers nous par sa grâce et il ajoute le plus qu'on n'a pas afin qu'en accomplissant sa mission, on puisse dire, j'agis non pas par moi, mais j'agis par le nom de l'Éternel des armées. Et c'est ce point clé que je soulevais ce soir. Moïse, disqualifié par les hommes et par lui-même, va être qualifié à nouveau. Mais quel va être le facteur X? Le facteur X, c'est quand Dieu le dit, va, je suis avec toi. Et on voit que Moïse a beaucoup lutté. Au chapitre 4, on ne pourra pas le lire. On voit Moïse en train de lutter dans une situation difficile. Et Dieu va l'amener à vivre une expérience un peu particulière. Il lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un bâton. Le bâton du berger qui courait derrière les bœufs ou derrière les moutons. Dieu lui dit, prends ce bâton, jette-le à terre, deviens serpent. Et Dieu lui demande de prendre le serpent, non pas sa tête, mais pas sa queue. On le sait évidemment. La partie du serpent qu'il ne faut jamais toucher, c'est sa queue. Parce qu'évidemment, il vous mord rapidement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire par là? Là, Dieu voulait tuer à Moïse la peur. La peur de jouer, la peur de s'engager. Vous voyez, lorsque Dieu s'adresse à nous, je crois, selon moi, il vise une chose, tuer en nous la peur. Et c'est à cause de la peur de Pharaon, à cause de la peur de jouer que Moïse a refusé d'aller affronter Pharaon. Et nous sommes dans la même psychologie de Moïse, c'est-à-dire la peur de jouer ou même la peur d'essayer. Des fois même, on a peur de réussir. Ah non, ça si j'y réussis, je serais trop orgueilleux. Ah non, si j'arrive à briller dans ce domaine-là, ah non, je risque de perdre tel aspect. Non, chers frères, chers sœurs, je crois que la peur fait partie des obstacles majeurs. Si on n'arrive pas à être efficace, c'est parce qu'on a peur. Peur de témoigner, surtout peur de jouer. Et je crois que Dieu a eu besoin de convaincre Moïse qui n'avait pas peur, qui n'avait pas avoir peur de la peur. Il devait être capable de vaincre la peur pour faire quoi? Pour être capable d'entrer dans sa mission. Je crois que l'heure vient, et c'est l'heure maintenant, où Dieu va chercher des hommes en qui il va vaincre la peur. Et si la peur est vaincue, la peur de l'échec, la peur de parler, la peur de se tromper, même la peur de réussir. Si on réussit à dominer la peur, je crois que là, on sera capable d'accomplir la mission de Dieu. Je vais juste donner deux ou trois petites choses. Quand je me suis engagé dans le ministère, je faisais un DEA, diplôme d'études approfondies. Et puis, j'étais aussi consultant en médecine de l'environnement en Côte d'Ivoire, juriste chargé du code de l'environnement. Et à un moment donné, j'ai voulu tout arrêter. Parce que je ne concevais pas bien qu'un pasteur devait être intellectuel, c'est ce que je pensais. Je pensais vraiment à tort. Hein. Je dis, mais qu'est-ce qu'un pasteur a fait? A fait encore diplôme d'études approfondies qui vous conduit à faire après une thèse doctorat. Les démons n'ont pas peur des diplômés, ils n'ont pas peur d'un doctorat. J'avais une conception très, très rétrograde de la foi chrétienne. Et là, Dieu m'a parlé clairement. Dieu m'a dit, si, tes études et ton travail est une bénédiction. Et ensuite, je me suis engagé donc à faire les études que j'ai faites, m'inscrire à l'IMO, je fais ma thèse, et plus tard me préparer à aller au concours d'agrégation. Pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que dans la situation du pasteur que je suis, j'aurais pu avoir peur de réussir. Parce que finalement, vous voyez, on a dans nos églises, peut-être pas ici en France, mais dans nos églises en Afrique, on est un peu gêné quand on est un peu intellectuel. On voit tellement des gens des niveaux très bas. Et on pense que le critère de spiritualité, c'est quand on a fait la troisième, ça n'a pas marché. Bon, on devient pasteur. Ou le chrétien efficace, priant, parlant langue, prophétisant, c'est celui qui n'a pas grand-chose à faire dans la journée, qui passe son temps à prier. Donc vous voyez que ça, c'est aussi un complexe. Et, ouais, il y a 12 extrêmes. Vous voyez le complexe de celui qui a réussi, entre parenthèses, qu'on ramène vers le bas. Et le complexe de ceux qui se trouvent au fond du trou, qui a du mal à s'en sortir. Et là, de part et d'autre, il faut être en mesure de vaincre la peur du succès, mais aussi la peur de l'échec. Et je crois que si on est capable, n'est-ce pas, de triompher de ces choses, alors on sera comme Moïse, un homme, une femme, utile entre les mains du Seigneur. Gloire à Dieu. Deuxième chose que je remarque, c'est que lorsque Moïse a essayé de convaincre Dieu, il a essayé de convaincre Dieu de ne pas s'engager, Dieu l'a amené à lui accorder sa présence. Et tout à l'heure, j'en ai parlé. Le bâton qui était là était comme un objet ordinaire est devenu quelque chose de particulier. Vous voyez, ce bâton qui était le symbole d'autorité est devenu un peu l'expression de la, je dirais, du revêtement de puissance. Et c'est là que le changement s'est produit. Quand Moïse a eu l'assurance que Dieu était avec lui, il est parti chez Pharaon ayant la conviction qu'il vaincrait. Pourquoi? Mais parce que Moïse avait vaincu la peur. Il était donc capable de vaincre quoi? De vaincre la peur de Pharaon. Je crois une chose. Si nous sommes capables de vaincre la peur de l'échec ou du succès, on sera capable de vaincre la peur devant les personnes devant lesquelles on se présente. Et je crois qu'ici en France, vous les Français ou bien Suisses, comme j'entends, plus que jamais, moi Africain, Ivoirien, plus que jamais, le grand ennemi, le plus dangereux à vaincre, c'est la peur. La peur paralyse la mémoire. On peut prendre un étudiant brillant, mais devant un jury composé, l'enfant perd ses moyens, il perd ses facultés. Chers frères et chers sœurs, la peur n'est pas seulement spirituelle, elle est aussi psychologique. Et même elle aussi, je dirais, d'autres morales. Et je crois qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir plus de force et de courage pour dire, non, je refuse d'être tétanisé par la peur, je vais y aller. Parce qu'en fait, c'est quoi le but d'un homme? D'accomplir sa destinée. Or, notre destinée peut s'accomplir que quand on est capable de vaincre nos propres regards et de vaincre le regard des autres. Donc Moïse, en partant chez Pharaon, a reçu le revêtement de puissance. Et ce revêtement de puissance va faire totalement la différence. Et je crois que si Dieu est avec nous, et je crois qu'il est avec nous, et si son Esprit Saint est avec nous, nous pourrons faire des grandes choses. On n'aura plus peur de prier pour les malades. Et j'aime bien Michel parce qu'en fait, n'a pas peur de prier pour ceux qui sont paralysés. Si ça réussit, ça réussit. Si ça n'a pas réussi, mais il s'en fiche. Et donc, si j'ai essayé que ça n'a pas marché, qu'est-ce que j'ai perdu? En revanche, si j'ai essayé et que ça a réussi, j'ai tout gagné. Vous voyez un peu, je suis un peu dans le pari de qui? De Pascal. Donc, en clair, notre victoire à nous sera de vaincre notre peur, de sorte que comme Josué, comme Moïse, ces hommes qu'on a tendance à élever, on soit à mesure de faire autant, sinon plus qu'eux. Deuxième aspect de mon message, c'est, et là je vais aller vers la fin, je vous parlerai également de comment le Saint-Esprit a transformé la vie des disciples de Jésus. Et je verrai que comment est-ce que ces hommes ont réussi à vaincre la peur, vous voyez, en ayant vaincu la peur, Pierre, Jean et Jacques ont été capables de faire quoi? D'accomplir leur mission. Écoutez, ça c'est le second aspect de mon message. Quand on prend la psychologie des disciples de Jésus, ils étaient disqualifiés. D'abord parce qu'ils venaient d'un trou perdu d'Israël, Galilée. Je ne sais pas qui on méprise ici en France, mais ils avaient un accent qui était très. Parce qu'on les reconnaissait par leur accent, donc ce n'étaient pas forcément les hommes les plus estimés. Quand on voit leur psychologie, ils étaient disqualifiés. Regardez un jour, Pierre empêchait des enfants de s'approcher de Jésus. Pierre, il empêche les enfants de s'approcher de Jésus. Un jour, le même Pierre, avec les autres, on dit à une femme syrophénicienne, mais tu cries, tu aboies, mais arrête d'aboyer. La femme avait besoin d'une guérison. Pierre était fâché. Regardez, au niveau humain, il était disqualifié. Prenez Jean et Jacques, ils ont demandé un jour à Jésus d'ordonner que le tonnerre vienne cramer, détruire un village samaritain. Pour quelles raisons? Mais parce que les Samaritains avaient refusé. Et on peut le comprendre de recevoir Jésus-Christ parce qu'il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. C'était purement culturel. Mais pour avoir été, ou pour n'avoir pas reçu la visite attendue, donc Jean et Jacques ont demandé que le feu vienne du ciel pour consumer totalement les Samaritains. Ils étaient au niveau humain disqualifiés. Oh, on parle de Pierre, de Jean comme étant des saints, c'est vrai. Ça, c'est avec le Saint-Esprit. Mais pris au niveau individuel, ils étaient totalement disqualifiés. Au lieu que je parle de Thomas, il a dit, si je ne mets pas mon doigt dans ses plaies, je ne croirai jamais à ce qu'il dit. Vous voulez que je parle de qui encore? Philippe, il dit à Jésus, montre nos pères et ça nous suffit. Donc en fait, en les prenant individuellement, ils étaient tous disqualifiés. Matthieu, on ne parle même pas de lui parce qu'il était carrément un homme, il était anonyme. Anonyme totalement. Donc on voit que quand on prend les disciples de Jésus-Christ un à un, au niveau humain, ils n'étaient pas qualifiés. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ces personnes disqualifiées, qui n'étaient pas à mesure de prier pendant une heure de temps, pendant une heure de temps. Dimanche passé, j'en ai parlé quelque part, j'ai dit, mais les disciples de Jésus pouvaient être accusés actuellement d'être dans une infraction qu'on peut qualifier de non-assistance en personne en danger. Jésus était en train de prier, il a dit à ses disciples, veillez avec moi pendant une heure, et au bout d'une heure, je reviens vers vous. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais il dit, je reviendrai vers vous. Il revient vers les disciples et il les trouve complètement endormis. Plus tard, une cohorte de brigands, enfin une cohorte de soldats romains s'amène, attrape Jésus et ils l'ont tous lâché et ils se sont enfuis. Non-assistance en personne en danger. Pierre, qui a eu le courage de le suivre de loin, s'est retrouvé dans une foule. Il a été reconnu comme étant disciple de Jésus-Christ par son accent. Il a juré, en Afrique, on fait comme ça. Je jure par la terre, je jure par ma langue, et je jure par le ciel que je ne l'ai jamais connu. Il s'est retrouvé avec une femme. Bien sûr, il ne méprisait pas les femmes, mais on aurait pu penser qu'avec la foule, il avait peut-être peur d'être lynché. Mais avec une femme, il aurait pu dire, tiens, madame, s'il vous plaît, j'étais un des leurs, mais s'il vous plaît, ne le dites à personne. Mais il n'était pas à mesure d'affirmer sa foi. En fait, avec ses disciples, Christ n'avait aucune chance, entre parenthèses, de voir son nom traverser l'histoire. Mais quand ces mêmes personnes disqualifiées au niveau humain pour qui il n'y avait aucun respect, aucune considération, ont reçu le revêtement de puissance, exactement comme Moïse qui a reçu cette puissance par le symbole qu'on a, le cornal du bâton, les vies ont été transformées. À moins d'un siècle, l'Empire romain a été touché. La puissance de Dieu a vaincu ces hommes dans leur peur et a fait des héros. De zéro, ils sont devenus des héros. Et je crois une chose, quand Dieu vient vers une personne, il transforme sa vie. Ce soir, je vais vers la fin de mon message. Tu peux être un héros parce que tu es un zéro. Si Dieu, par sa présence, vient vers toi et te dit, lève-toi, fais ceci, fais cela, ça veut dire qu'au plan spirituel, il t'a qualifié. Si au niveau humain, tu n'es pas qualifié, Dieu, quand il vient vers toi pour dire, lève-toi, prêche, lève-toi, commence cette affaire. Lève-toi, initie telle entreprise. Lève-toi, fais telle étude. Ça veut dire qu'il a déjà vu la fin avant le commencement. Pourquoi? Mais parce que Dieu est d'abord l'alpha, il est aussi l'oméga. Donc quand on refuse de partir, c'est parce qu'on considère notre présent. On voit notre commencement, mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quoi? Il voit la fin. Et comme la fin est toujours glorieuse pour lui, chaque fois qu'il te parlera pour dire, lève-toi, fais ceci, ça veut dire quoi? Il a assuré la fin. Et tu peux y parvenir. Tu peux y parvenir. Je veux qu'on ferme les yeux, s'il vous plaît, un instant. On va prier. Tes messages sont très courts. Et je veux simplement te dire une chose. Tu peux y parvenir. Moïse n'avait pas toutes les qualifications. Il avait même dit qu'il bégayait. Ce n'était pas vrai. Il avait essayé de réussir une délivrance par sa propre personne. Ça n'a pas marché. Mais quand Dieu est venu vers lui, Moïse a été qualifié. Et ce soir, Dieu te qualifie. Oh, prie pour toi-même simplement ce soir. Y a-t-il un combat que tu mènes au niveau intérieur parce que tu as peur de prendre une décision, de t'engager? Tu as peur de jouer dans ton entreprise, tu as peur de jouer dans le témoignage, dans le ministère. Ce soir, pars d'ici avec la conviction que dès lors que Dieu t'a parlé, ça veut dire qu'il a assuré ton succès. Oh Seigneur, je te remercie ce soir. Oh, si parmi nous, il y a des personnes qui sont tétanisées par la peur. Oh, que par ton Esprit Saint. Oh, le charababa. Que tu les relèves. Que tu les relèves. Que tu les relèves. Au nom de Jésus. Que personne ne puisse se mépriser. Que personne ce soir ne puisse se mépriser. Et que tous prenons conscience. Mais de manière individuelle. Que le potentiel déposé en nous a de la valeur à tes yeux. Je te remercie parce que tu le fais. Que les portes puissent s'ouvrir, que les chemins soient frayés. N'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur d'engager. Il est avec toi. Ce soir, est-ce que je peux prier pour quelques personnes? On va prier ensemble. Y a-t-il une personne qui est dans la situation de Moïse, qui a peur de s'engager? Je ne parle pas d'engagement forcément dans le sens du ministère, mais s'engager après une décision, une affaire, à commencer quelque chose. Vous voyez, des fois, nos pensées sont tourmentées par la peur de que ça ne marchera pas, ça n'ira jamais. Je n'ai pas envie de dire jamais. Je ne suis pas qualifié pour cela, je ne peux pas y parvenir. Et tu te sens bloqué dans ton élan. Et tu as besoin qu'on prie ensemble ce soir. Si tel est ton cas, lève ta main simplement, on va prier ensemble. Et si possible, une deuxième part, mets-toi debout, on va simplement prier ensemble. Mon message a un but simple, hein, c'est vraiment de relever votre foi et de vous permettre d'être debout pour dire, j'avancerai là où Dieu me conduit. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Dis-moi, ces personnes-là, je les demande tous, on va se tenir debout, je vais prier avec elles. Pour tenir debout, s'il vous plaît. Voilà. Je m'intéresse à ceux, pas à tout le monde, enfin, principalement à ceux qui ont besoin qu'on prie ensemble, qui sont tétanisés un peu par la peur de ne pas parvenir à quelque chose. Je ne sais pas quelle est l'échelle que vous voulez toucher. Je ne sais pas, mais. Oh, sans vous bourrer avec mon témoignage, c'était pas évident de cesser au concours d'agrégation juste après 3 ans d'enseignement, mais je suis parvenu de la meilleure des manières. Ça marchait, si j'avais échoué, peu importe. Des fois, on a besoin de vaincre la peur. On a besoin de ça. Et cette prière d'association, c'est pour vaincre les chaînes de la peur. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux chaînes de la peur de lâcher prise. La peur d'échouer, la peur de réussir, la peur d'essayer, la peur qui nous paralyse comme Moïse qui a refusé de partir parce qu'il avait peur. Ce soir, je viens d'annoncer une seule chose. Que si une personne parmi nous avait peur d'essayer de partir, que cette personne se lève et qu'elle parte dans le nom de Jésus-Christ. Qu'en dépit des défis à relever, la puissance vient de toi pour que ceux qui se sentent encore liés par la peur triomphent des chaînes de la peur. Dans le nom de Christ Jésus, j'ordonne cela. J'ordonne que des chemins soient frais dans le désert. Au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau intellectuel, au niveau, à tous les niveaux, qu'un chemin soit frayé. Et si une montagne se dresse, j'ordonne que la montagne soit déplacée, parce que derrière la montagne, je vois maintenant un tunnel se placer, se positionner. Dans le nom de Christ Jésus, que tous ceux qui sont au niveau humain disqualifiés ce soir retrouvent les qualifications exceptionnelles venant du Saint-Esprit. Je proclame cela et j'ordonne que la force qui leur manquait comme Moïse, la force qui leur manquait, cette force leur soit accordée maintenant. Cette force leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la force de la part du Seigneur. Brisez les chaînes de la peur. Brisez les chaînes de l'échec. Brisez les chaînes de la frayeur. La frayeur du jour, la frayeur de la nuit. Et redressez le pas. Vous y parviendrez. De la même manière, Moïse y est parvenu. Vous y parviendrez. De la même manière, Pierre et Jean, disqualifiés au niveau humain, ils sont parvenus. Vous y parviendrez parce que Dieu est avec vous. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. J'ordonne cela et je proclame cela dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que tu le fais. Oh, je te remercie parce que tu le fais. Oh, Koroucharababa. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton action. Merci parce que tu te saisis des uns et des autres. Merci parce que tu fortifies ceux qui sont en train de trembler et tu l'accordes d'affronter les défis de la vie, d'affronter et de dominer dans le nom de Christ Jésus. Père, merci pour cela. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire, honneur et majesté te soient rendus, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Michel?
Attends, reste une petite seconde.
Cité.